Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Laurence. Vous êtes à l'écoute des mots des livres, une émission en direct autour des livres jusqu'à 19h. On retrouvera aujourd'hui la dessinatrice d'un magnifique album de bande dessinée qui s'intitule Interlude. Cette invitée s'appelle Célia Ducaju. C'est un ouvrage paru aux éditions d'Argo. La scénariste est Céline Peters. Puis nous retrouverons Damien Marage qui est professeur en géographie et qui est l'un des co-auteurs d'un très beau livre, La belle histoire des merveilles de la nature, à retrouver aux éditions de Box supérieure. Mais avant de retrouver notre invité, un peu de musique. On se retrouve juste après ça, tout de suite. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, on laisse cet extrait de Moonlight Serenade, qui vraiment est un morceau qui accompagne votre album de bande dessinée qui s'intitule Interlude. Vous en avez fait les dessins, le scénario est de Céline Peters. C'est paru aux éditions d'Argo. Mais avant de parler de cet interlude, est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur vous? C'est pas votre premier album?
Si, c'est mon premier album et c'est aussi le premier album de Céline.
Eh bien, quel joyau, si j'ose dire. C'est un magnifique album qui nous plonge dans une période de la Seconde Guerre mondiale qui est peut-être peu connue pour les Français, peut-être plus connue pour nos amis belges parce que ça se déroule pendant cet hiver 44 dans les Ardennes belges. Comment vous est venue l'idée de raconter cette histoire?
En fait, c'est un peu hasard, on travaillait ensemble déjà sur un projet de bande dessinée et Céline est tombée sur une vidéo des archives INA qui parlait de l'anecdote de ses pianos et on trouvait ça vraiment incroyable et on voulait le replacer, bah, comme vous le disiez, dans les Ardennes belges vu qu'on est tous les deux belges, mais voilà, se baser sur ces faits réels des pianos qui ont des fois même été parachutés sur le front pour remonter le moral des troupes.
Alors justement, c'est ça le sujet, ça s'appelle Interlude. Interlude, vous le rappelez dès le début de l'ouvrage par sa double définition. Tout d'abord en musique, une courte pièce musicale exécutée entre deux autres plus importantes. Et puis dans le sens figuré, période transitoire. Et c'est là toute l'histoire de cet interlude, dont d'ailleurs Georges Clemenceau, vous l'avez d'ailleurs cité. Ce que nous appelons la paix pourrait n'être finalement qu'un interlude entre deux guerres. Et cette période d'interlude, à travers donc la musique et ce moment suspendu, c'est grâce à une initiative de l'armée américaine qui va faire construire de tout petits pianos par une entreprise bien connue, hein, des amateurs de pianos, les Steinway, pour être parachutés un peu partout sur les lieux de conflit, que ce soit sur le continent européen, mais sur tous les lieux où les soldats américains se trouvent, à la fois en Asie, dans des zones un peu plus inhospitalières pour les instruments de musique, et également donc au-dessus de l'Europe et notamment auprès de notre compagnie de GIs américains, qui vont voir donc dès les premières pages un parachute leur tomber dessus. Et la première question qu'ils se demandent, c'est de quelle couleur est le parachute, parce que là encore, hein, c'est assez incroyable. Selon la couleur, eh bien, on savait ce qu'il transportait.
Oui, exactement. On avait visité un musée justement dans les Ardennes qui répertoriait les différentes couleurs aux différents matériaux ou autres qui pouvaient être envoyés dans les caisses de ces parachutes. Et là, c'est un parachute blanc, vu que c'est du matériel, de l'équipement. Donc ça pouvait aussi être des vêtements, des couvertures. Mais par exemple, les médicaments, ça va être une autre couleur, ça va être... Les voiles jaunes, et puis les munitions, ça va être des voiles rouges, par exemple.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait se dire que les soldats se disent « Oh, piano, qu'elle... » Enfin, le mettre un peu de côté. Or, c'est tout le contraire. Ça va être un objet de toutes les attentions qui va attirer tout le monde.
Oui, en fait, c'est vraiment un objet incroyable. Il y avait aussi, on le sait bien, des orchestres, il y avait même des stars qui allaient dans les différents régiments pour la musique, c'était quelque chose d'important à l'époque. Et là, ce piano, il arrive, Steinway l'envoie avec un petit fascicule de partition. Mais c'était très, très 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 courant à l'époque de pouvoir jouer du piano, et donc ces soldats américains vont jouer les tubes de l'époque qu'il y a dans les partitions, ou alors qu'ils jouaient peut-être entre eux à la maison, quoi.
Alors cet instrument, vous le rappelez dans l'ouvrage et notamment dans les bonus à toute fin, ils avaient une conception très particulière, hein, parce que évidemment à l'époque les matières premières étaient tout d'abord destinées à faire de l'armement de guerre, et donc ils vont être faits différemment, et puis un tout petit format pour qu'ils soient transportables. Du coup, ça va au départ surprendre, hein, les premiers soldats qui vont tomber dessus.
Oui, tout à fait. C'est un piano droit qui fait seulement 1 mètre de haut. Et donc même si c'est un clavier classique de 88 touches, donc 1,40 m de long, eh bien cette hauteur va créer la curiosité. Et puis évidemment, il y a aussi cette couleur, il est peint, comme ils le disent, hein, d'un vert olive de la même couleur que leur Jeep. Et donc c'est vrai que c'est un piano qui est tout à fait particulier par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir.
Alors on découvre dès le début, donc vos héros, hein, vos personnages vont tout de suite adopter, hein, ce piano, et notamment donc il y a des musiciens et même des chanteurs, et dès qu'ils se mettent à chanter, vous avez choisi au dessin de nous transporter dans des couleurs très très chaudes, là où c'est un hiver, hein, particulièrement rude, cet hiver 44, et qui donc fait un écho entre les couleurs très froides, très bleues de la situation des soldats. Et lorsqu'ils chantent et lorsqu'ils jouent de la musique, on retrouve des couleurs très très chaudes, c'était vraiment un parti pris pour montrer le décalage et cet interlude, ce moment transitoire lorsqu'on entend les premières notes sortir du piano.
Oui, tout à fait. On voulait vraiment montrer les conditions de cette époque-là qui sont vraiment dures. En plus, ça se traîne. La neige, on sait à combien ça a été dur pour les soldats. Et puis, en fait, il y a aussi une beauté dans ces paysages enneigés, mais on sent derrière tout le contexte difficile. Et puis, la musique, on voulait la représenter d'une autre manière et on voulait qu'elle prenne vie. Et donc, pour moi, c'est vraiment des sortes d'apparitions, des apparitions lumineuses. Et voilà, cette notion d'espoir de la musique, ça prend forme avec une certaine lumière.
Oui, et puis c'est assez sensuel aussi.
Oui, tout à fait. On est tout à fait dans le côté plus émotif, plus tactile. On sent qu'il y a tous les souvenirs des soldats aussi qui prennent vie. Donc, dans un cadre, là, ils sont très loin de chez eux. Et puis, on rend à l'imaginaire sa place dans ce contexte.
Alors malheureusement, notre piano va se retrouver en situation délicate, car branle-bas de combat, tout le monde doit quitter le lieu où il se trouve. Or, il n'y a pas de place, hein, pour cet instrument, et trois des soldats ne veulent pas le laisser derrière eux. Ça fait partie vraiment de leur compagnon de route, ce piano.
Oui, en fait, c'est ça. Ça leur a apporté de l'espoir et ils peuvent pas le lâcher. C'est devenu un de leurs compagnons. Et avec Céline, on voulait vraiment... elle avait en tête ce trio et puis on voulait que ça finisse par former un quatuor avec le piano comme quatrième personnage.
Alors justement, ça va être très très dur hein, pour ces trois hommes. Ils vont décider de le transporter. Alors ils ont très peu de temps hein, pour rallier leur groupe. Sinon, ils vont être considérés comme déserteurs. Alors c'est quand même difficile hein, lorsqu'on lit ces mots. Hein, on se dit mince, ils veulent sauver ce piano et ils risquent d'être accusés de désertion. D'un autre côté, on est en plein hiver. Il y a des soldats allemands partout. Et puis c'est un piano qui pèse son poids. Les conditions sont extrêmement rudes et malgré tout ils vont rester solidaires jusqu'au bout et ils vont même faire de drôles de rencontres, notamment une femme au milieu de la forêt.
Oui, en fait on a rassemblé différentes histoires, on a fait pas beaucoup de recherches, déjà d'une part par rapport à ce piano, donc avec des spécialistes et puis Steinway, des archives de photos de l'usine, ce genre de choses, aussi des experts de cette période-là, des soldats américains, mais on a aussi été dans la région des Ardennes et puis on a recueilli des témoignages et notamment des histoires un peu familiales aussi où on sait qu'il y a eu une vie complètement différente pour les civils sur place à ce moment-là et on voulait montrer cet aspect.
Et il y a des moments très très forts, hein, très douloureux, lorsque on voit la condition de la femme pendant les temps de guerre. Hein, c'est rappelé. Il y a aussi des soldats noirs américains hein, qui dont on va croiser le chemin et qui nous racontent aussi les dures tâches qu'ils ont à faire. Et puis le besoin de l'époque hein, à la fois de cette musique et qui, grâce à la correspondance que les soldats avaient avec leurs proches, de transmettre ce moment d'espoir que pouvait leur amener cet instrument avec des anecdotes très émouvantes que vous rappelez à la fin, vous le rappeliez, il y a des archives avec des photographies des soldats autour de ce tout petit piano, on rappelle, hein, qui n'était pas bien haut et qui était conçu aux États-Unis. Il y en a combien déjà qui ont été faits?
Alors, il y en a un peu plus de 5000 qui ont été faits sur toute la période de construction. Mais nous, quand on parle des envois de ces pianos-là, enfin des constructions pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en a eu 2436 qui ont été envoyés au front entre 1943 et 1945.
Alors malheureusement, vous le rappelez également dans les bonus, ces instruments eh bien, ont eu mal à faire avec le climat, les conditions de la conception. Hein,
Exactement.
Et malheureusement, très peu ont passé la guerre et sont arrivés jusqu'à nous.
Oui, vraiment pas beaucoup. On a quelques traces de ces pianos-là aux États-Unis. Il y en a un qui a été retrouvé il n'y a pas longtemps en France, alors certains sont dans des très mauvais états et là on sait qu'il y en a qui vont être restaurés, mais il n'en reste pas beaucoup. Ouais.
Alors est-ce que cette incursion dans la bande dessinée, notamment dans cette période, vous a donné envie avec Sean Peters de poursuivre ce travail de mémoire ?
Tout à fait. En fait, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est cette approche d'anecdotes pour raconter la grande histoire et vraiment d'avoir un point de vue des faits méconnus. Et je pense que c'est aussi un peu dans notre ADN de faire ça toutes les deux, vu qu'elle est aussi chercheuse et j'aime bien creuser dans ce sens-là aussi. Et on continuera sur une autre période, mais toujours à deux.
Eh bien, c'est formidable. J'invite tous nos amis auditeurs à découvrir Interlude. C'est un album de BD paru aux éditions d'Argo qui parle, comme vous rappeliez, de la petite histoire dans la grande, où ces fameux Victory Verticals, hein, le surnom donné à ces instruments de musique, ces Steinway, ces petits pianos qui ont permis redonner un peu de chaleur dans les compagnies de soldats à travers donc tous les fronts. Hein. Vous le rappelez à la fin, des Philippines en passant par l'Europe, à l'Afrique, c'était vraiment un... Et puis, vous rappelez également hein, que l'état-major, tout le monde n'était pas très enthousiaste.
Oui, les avis, ça dépend évidemment, mais en général, en tout cas, il y a un témoignage d'une lettre, on sait que ça avait été très bien reçu de la part de certains soldats. Après, la hiérarchie est ce qu'elle est, il y a des cadres à cette époque-là, mais nous, ce qu'on veut montrer, c'est vraiment que la musique est essentielle.
Et c'est ce qu'on découvre dans Interlude. Vous avez même rappelé à la fin certains morceaux qui ont été mis dans l'album. Alors tout à l'heure, on a écouté Moonlight Serenade. On va se quitter sur un autre morceau, St. James Infirmary. Désolée pour l'accent. Hein. Et c'est magnifique au piano et on peut presque le lire en écoutant ces grands morceaux de ces années 30-40 que c'est jeunes soldats ont écouté, ont joué sur le front, notamment donc dans ces Ardennes belges en cet hiver 44. Et merci encore à vous, Célia Ducaju, puis on attend avec impatience votre prochain travail avec, si ce n'est Saint Peters, peut-être vous toute seule, hein, qui sait. En tous les cas, nous, on attend ça avec impatience. Et puis pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le site dargo.fr. Après, je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux.
Oui, bien sûr, vous pouvez trouver avec mon nom, Célia Ducaju.
Eh bien, merci à vous et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
BFM Radio, le média valdoisien.
Je n'ai besoin de personne pour le rencontrer un jour, ni qu'on me raisonne pour m'aider à voir l'amour. De personne, quand je me suis fait ma loi, besoin de personne, quand elle est venue vers moi.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et nous retrouvons notre invité Damien Marage, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler d'un très beau livre, La belle histoire des merveilles de la nature, dont vous êtes le co-auteur avec Guy Lamperrière. C'est paru aux éditions Debocq Supérieur. Alors avant de parler de cet ouvrage, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots auprès de nos auditeurs ?
Oui, bien entendu. Donc moi je suis professeur à l'université de Franche-Comté. J'enseigne la géographie environnementale au sein d'un laboratoire qui s'appelle TEMA.
Et vous avez travaillé sur ce très beau livre, « Glisser au pied du sapin ». Oui, on est à un mois de Noël. C'est l'occasion toute rêvée pour se donner des idées à offrir ou à s'offrir, car c'est une invitation à découvrir les beautés qui nous entourent sur cette terre si fragile et dont vous rappelez l'impérieuse nécessité de protéger.
Bah oui, en effet, au-delà de la question de... Oh là, vous m'entendez bien ?
Oui, je vous entends, oui.
Au-delà de la question de ces belles images, effectivement, qui sont là pour provoquer l'émerveillement, évidemment, nous, on a développé une analyse, un discours sur leur respect de ces éléments de la nature, qu'ils soient d'ailleurs végétal, animal ou minéral. C'est surtout, en fait, un ouvrage qui pense nos relations avec le vivant. Voilà, c'est surtout ça, au-delà des belles images.
Alors justement, cet ouvrage est construit en différentes parties. Vous commencez déjà à rappeler que l'homme est arrivé bien tard dans l'évolution et qu'ensuite il faut penser la nature, puis il faut l'explorer, la protéger. Se connecter, c'est bien là toute la question. Comment aujourd'hui notre place, comment trouver notre place avec cette nature? Alors sur chaque double page, on a une chronologie avec des dates très importantes qui rappellent comment l'homme a évolué vis-à-vis de cette nature. Alors c'est assez étonnant quand on imagine que l'écologie c'est quelque chose qui est assez récent, mais on peut dire que ça remonte quand même à un petit moment. La conscience de l'homme pour
oui, bien sûr. Par le passé, effectivement, nos aïeux ont évidemment eu des relations avec leur ce qu'on appelle nous notre environnement d'une manière très anthropocentrée. Donc ils vivaient dans un environnement qu'il fallait parfois qu'ils ont évidemment beaucoup subi, mais ils ont cherché à le transcender au travers de rituels, au travers de la spiritualité, et donc ils avaient déjà des formes d'attachement à cette nature diverses dans les différents courants de pensée, que ce soit en Chine, au Moyen-Orient, en Occident, en Australie. Chaque peuple avait des relations particulières avec cette nature, et c'est ce qu'on développe dans cette première partie de penser la nature, comment les sociétés, les différentes sociétés, les différents courants ont pensé cette nature.
Alors moi, j'étais très surprise et admirative que depuis le XVIIe siècle, en Angleterre, les jardins de Kew, à l'ouest de Londres, ont commencé, grâce à Sir Henry Capel, à constituer une conservation sur la recherche botanique, si je dis pas de bêtises. Donc ça remonte quand même au XVIIe siècle. C'est loin.
Évidemment, parce que... Évidemment, dans cette pensée la nature, et évidemment, c'est aussi commencer à l'explorer. Et en effet, lors de la modernité qui nous caractérise, c'est-à-dire à partir du moment où on a découvert, Christophe Colomb a découvert l'Amérique, eh bien, ça a été aussi le moment des grandes explorations, des grands explorateurs qui, dans leur voyage, se sont confrontés à d'autres univers quelque part et ont ramené des échantillons animaux ou végétaux Et notamment, bon, alors on cite le jardin de Padoue qui a été le premier jardin réellement à constituer des collections botaniques, mais très vite le jardin de Kew en Angleterre ou le jardin royal à Paris qui deviendra le Muséum national d'histoire naturelle bien plus tard, eh bien ont commencé à constituer ces collections effectivement botaniques.
Alors ce qu'on découvre aussi, c'est autant donc on a été l'humanité est très était très curieuse de découvrir donc la faune et la flore, mais c'est beaucoup plus donc tardif l'étude de l'océanographie.
Oui, c'est arrivé bien plus tard. En effet, il a fallu déjà concevoir des. On va dire, il a fallu l'avancée technologique et technique pour pouvoir explorer, sonder ces océans. C'était finalement un univers, et d'ailleurs qui nous est encore en partie inaccessible, hein, mais c'est un univers qui est extrêmement difficile à explorer, et donc il fallait des moyens techniques, et donc pour pouvoir explorer cet univers sous-marin.
Alors j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la manière dont vous évoquez ces fameuses espèces étendards. On peut penser au panda qui est le symbole du WWF, ou encore les Big Five pour le continent africain. Mm-hmm. C'est très important d'expliquer ce que veut dire ces espèces étendards, parce que souvent c'est l'arbre qui cache la forêt.
Oui, en effet, ces espèces. Ces espèces étendards, c'est ce qu'on appelle aussi, en anglais, c'est le terme qu'a retenu en tout cas Rednos en 1990 dans une publication très, très importante où il va décrire ces différents types finalement d'espèces que nos sociétés identifient. Donc il y a des espèces clés, il y a des espèces plus remarquées que d'autres, et c'est celle-ci qui va nommer espèces étendards, donc flagship species en anglais. Et bien évidemment c'est la baleine bleue, c'est les pandas géants, les tigres de Sibérie et autres, mais finalement oui, ces espèces elles n'ont pas forcément un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. C'est effectivement ça que l'on met en avant, mais ils ont un rôle important sociétal, puisque c'est au travers de ces espèces que la société se mobilise. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire que finalement l'émerveillement n'empêche pas la lucidité de protéger cette nature, ces espèces, mais évidemment bien d'autres.
Alors justement, protéger la nature, un chapitre formidable où vous rappelez ces espèces qui sont au bord de l'extinction, pas forcément à l'autre bout du monde, tout simplement dans nos jardins. Vous évoquez le chardonneret qui est un petit oiseau, le chardonneret élégant qui malheureusement est l'objet de trafic. Trafic justement qui est l'objet d'une double page où l'on voit une saisie de doigts, où ce sont des carapaces de tortues terrestres qui étaient massacrées pour qu'elles soient récupérées, ces carapaces. Donc ces animaux sont morts pour l'argent, quoi. Vous évoquez ensuite les grands parcs américains tels que Yellowstone qui lui aussi les parcs américains ce sont aussi on pourrait dire des étendards, c'est-à-dire que ce sont des endroits où beaucoup de touristes se rendent et même si ce sont des lieux on peut dire préservés, ils sont aussi très sollicités par l'homme.
Oui, en effet, c'est dans le. Alors, on met en avant ici dans cette double page le parc de Yellowstone parce que c'est le premier parc finalement qui a été créé en mars 1872, avec des images magnifiques de ce Grand Prismatic Springs, ce fameux geyser immense avec des couleurs magnifiques de toute la gamme chromatique de l'arc-en-ciel. Mais c'est effectivement, ces parcs sont extrêmement visités. On dénombre environ à peu près 4,5 millions de touristes annuels rien que pour ce parc-là. Au total, c'est plusieurs vingtaines de millions de touristes pour l'ensemble des parcs américains. Donc c'est une pression considérable. C'est une pression aussi qui va se manifester en termes de quiétude pour les animaux, évidemment, qui vivent, en termes de.
D'ailleurs,
c'est un problème.
Sans aller aussi loin, vous évoquez aussi Sainte-Victoire chez nous en France.
Oui, bah, oui, oui, en effet.
Cette montagne.
Alors, victime de son succès.
Oui. Qui a été peinte donc par Paul Cézanne, qui en a fait une montagne sacrée, mais malheureusement, les visiteurs sont nombreux car ils veulent aller constater ce qui avait fait le succès de cette peinture de Paul Cézanne. Or, vous le rappelez, à la fois ça fait venir du monde, mais ça génère aussi un vrai business,
oui,
une vraie économie.
Oui, tout à fait. Eh oui, Paul Cézanne peint ce tableau autour du tournant du siècle dernier, en 1900, et dans cette célébrissime toile, c'est une toile extrêmement, extrêmement connue et reconnue. Il va même jusqu'à déclarer que la montagne pense en moi et je deviens sa conscience. Il habitait au pied de la montagne Sainte-Victoire, donc il parcourait, il avait sous les yeux ce paysage méditerranéen quotidien, et vraiment il avait, quelque part, il a encapsulé dans cette peinture toute son âme. Mais effectivement, au-delà de ça, la montagne Sainte-Victoire, c'est quasiment 1,5 million de visiteurs par an, et qui font peser des menaces finalement sur cette montagne, puisque plus il y a de visiteurs, plus le risque incendie est important. Et on sait que ces incendies sont on l'a vu en 2022, donc sont ravageurs. Donc il est important de veiller à limiter ces incendies d'origine humaine.
Le piétinement des sentiers
sur des espaces naturels qui renferment des espèces, bien souvent des espèces, et c'est le cas de la Sainte-Victoire, la montagne Sainte-Victoire, des espèces protégées. Bref.
Oui, il faut être attentif.
Ça rejoint. Pardon.
Il faut être très attentif lorsqu'on part visiter certains lieux. Ce que l'on fait avec le simple fait de traverser un sentier, vérifier qu'on ne sort pas justement de ces chemins balisés pour éviter à la nature d'être dégradée. Et c'est ce qui est formidable dans votre ouvrage, c'est la dernière partie, se reconnecter à la nature, où vous rappelez que depuis donc 1992, le sommet de la Terre à Rio, l'humanité entière, je pense, se penche davantage sur cette biodiversité qui s'éteint à petit feu. Et vous donnez des pistes, notamment avec le principe de rentrer un peu plus les sciences de l'écologie, en tous les cas le fait dès l'école d'être éduqué à l'environnement, les sciences participatives, c'est-à-dire que chacun de nous peut observer notamment les oiseaux avec la LPO. C'est important que finalement la manière de l'association Colibri, que chacun à sa hauteur puisse faire son effort pour mettre sa petite goutte dans l'océan, quoi.
Oui, c'est vrai que, et c'est ce qu'on indique dans cette fiche qui met en évidence l'importance de l'éducation à l'environnement et tout le travail, par exemple, que mène également l'Office français de la biodiversité, qui contribue avec plusieurs dispositifs à l'éducation à l'environnement. Je ne citerai qu'un exemple, c'est celle des aires éducatives, par exemple. Mais au total, en 10 ans, c'est plusieurs milliers d'élèves et plusieurs milliers de classes qui ont participé à cette initiative, soutenue, épaulée par le programme Viginature École, par exemple. Donc c'est vraiment formidable, et on voit que les choses bougent, puisque tout récemment, c'est ce que Michel Serres, le regretté Michel Serres, avait proposé il y a très longtemps, mais enfin en 2023, il y a une mission été porté par Luc Abadie, qui est professeur à Sorbonne Université, professeur d'écologie, et le climatologue bien connu Jean Jozel. Cette mission, enseigner la transition écologique dans le supérieur, eh bien, enfin elle a pris corps, et aujourd'hui, dans les universités françaises, tous les étudiants de première année de licence reçoivent 20 heures d'un programme de transition de transition écologique, et ça on peut s'en féliciter. Donc ça, c'est dans le supérieur, mais également, je le disais là, dans le dans le secondaire et dans le primaire, il y a énormément d'initiatives, vous l'avez rappelé, hein, avec la LPO, mais supportées aussi par l'Office français de la biodiversité.
Et puis de plus en plus d'instituteurs, professeurs des écoles, essaient d'avoir une initiative auprès des élèves en faisant des petits carrés de jardin dans les cours de récréation. Ils essaient ainsi d'inciter le maximum, dès le plus jeune âge, à cette conscience de l'environnement, à cette préservation de la biodiversité. Et ce qui est formidable, c'est qu'aussi vous rappelez, j'ai envie de dire, l'essentiel, c'est-à-dire le fait de ralentir, d'observer ce qui nous entoure, ce qui est le moyen le plus simple de se rendre compte que pour préserver cet environnement, il faut laisser la nature prendre son temps et nous aussi à côté.
Ah oui, en effet, et ça c'est finalement une citation que j'ai trouvée dans un ouvrage de Philippe Saint-Marc en 1973. Il écrivait déjà que la protection de la nature passera par la réduction de la vitesse, tout simplement. Et effectivement, c'est central. Alors, c'est un peu, quelque part, aussi paradoxal, puisqu'il y a urgence à agir. Donc, qui dit urgence, c'est souvent, il faut aller vite. Urgence à agir, en même temps, on prône le ralentissement de nos activités. Donc, ça veut dire qu'il faut articuler ça avec notre aménagement de nos territoires. On a souvent, et on aménage toujours nos territoires en fonction des relations d'espace, donc on veut se rendre le plus rapidement d'un point A à un point B, faire simple. Mais aujourd'hui, il faudrait réfléchir à l'aménagement de l'espace, non plus en matière de transport, mais de temps, non pas en matière en termes d'espace, mais en matière de temps. Voilà. Oui. Et ça va demander, ça va pouvoir reconfigurer l'ensemble de notre territoire si on commence à réfléchir en matière de temps.
Et forcément, ça fait écho à l'actualité avec certaines lignes de TGV, d'autoroute, qui tentent de raccourcir le temps de parcours, et malheureusement, ça traverse des zones humides, des zones où il y a des espèces protégées. C'est très important de se dire que la vitesse, se rendre d'un point A à un point B plus rapidement, ça peut aussi faire des dégâts sur notre environnement. Et est-ce que c'est vraiment bien utile? On retrouve tout cela dans ce très beau livre. On rappelle le titre, La belle histoire des merveilles de la nature. Un mot sur votre confrère Guy Lampérière qui a travaillé avec vous sur ce titre?
Oui, eh bien Guy qui est donc directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, donc lui a plutôt travaillé toutes les parties liées à la mer, aux espaces marins, aux espaces littoraux, pour Guy. Et c'est ça, il a travaillé longtemps, il a fait une grande partie de sa carrière au laboratoire d'écologie alpine à Grenoble.
Eh bien, c'est un magnifique ouvrage. Je ne sais pas qui a fait les photographies, mais alors c'est magnifique, magnifique. On retrouve des photos qui rappellent combien, le titre de votre ouvrage, ce sont des vraies merveilles, que ce soit la faune, la flore, les paysages, tous les éléments, qu'ils soient sur la montagne, dans les mangroves, au fin fond de l'Antarctique, dans les forêts, dans la savane. C'est magnifique, et avec plus ou moins des gros plans. Alors on peut découvrir des insectes, notamment jusqu'à la dernière page, ce fameux papillon que l'on peut retrouver dans son jardin. Enfin, papillon, est-ce un papillon? C'est là la question. Parce qu'il y a beaucoup de réflexions aussi. Vous interpellez le lecteur pour qu'il réfléchisse aussi à son tour. Alors, vous, par exemple, ce moro sphinx, peut-être dans votre jardin, effet papillon colibri, parce que c'est un petit insecte assez formidable que j'invite nos amis auditeurs à découvrir dans ce très beau livre, à glisser au pied du sapin, à s'offrir ou à offrir. Vous allez découvrir les merveilles de la nature avec des explications à la fois synthétiques et accessibles à tout public. Vous êtes, vous, professeur d'université, mais nous, en tant que lecteurs, amateurs, on retrouve rapidement des informations à la fois pratiques, didactiques, et en plus, vous avez mis en haut de chaque double page. Donc une frise chronologique avec les dates clés de ce que l'on peut découvrir en dessous, et puis sur la droite une photographie qui illustre le propos. C'est formidable. J'invite vraiment tous nos amis auditeurs à le découvrir. C'est un ouvrage à partager en famille, et c'est paru aux éditions de Boëc Supérieur, qui fait partie d'une il y a toute une collection d'ouvrages autour de ces merveilles. Là, je vous parlais des merveilles de la nature avec notre invité Damien Marage, mais celles et ceux qui veulent prolonger la lecture d'autres titres, il y a des merveilles sur tous les sujets. Mais là, c'est vraiment fait pour cette fin d'année, d'autant qu'on vient de passer cette COP autour de la biodiversité, je crois. C'était il y a 2-3 semaines, bon, qui n'a pas été d'un grand grand miracle, hein, les résultats, mais néanmoins le monde entier se penche sur la question.
Et il le faut. C'est une belle histoire aussi des merveilles de nos relations avec la nature. C'est le propos de l'ouvrage. C'est vraiment axé sur ces relations que nous avons avec la nature. Et je rappellerai que cet ouvrage est soutenu par l'Office français de la biodiversité également.
Et que même si, j'ai envie de dire pour conclure, faut pas trop compter sur les politiques qui sont souvent manipulées par certains lobbies et puis l'économie en général, c'est à chacun de nous de faire un petit geste pour la nature, car au final, c'est nous qui serons également en première ligne face à cette nature quand elle se déchaîne ou quand elle peut comme ça dérailler. C'est important que chacun de nous se penche sur l'impact que l'on peut avoir sur l'environnement. C'est un très beau livre, La belle histoire des merveilles de la nature. Je le rappelle, c'est de Guy Lamperrière et Damien Marage qui étaient en notre compagnie. C'est préfacé par Sandra Lavorel. C'est des photos en couleur qui nous invitent à s'émerveiller et puis à réfléchir aussi sur comment faire que nos petits-enfants et puis les générations à venir puissent s'émerveiller comme nous aujourd'hui et puis le plus longtemps possible. Merci encore à vous et puis on vous souhaite un beau succès pour ce titre.
Invitation.
Merci à vous, au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
IDFM Radio, le média valdoisien.
la matinale du lundi au vendredi de 7h à 9h30. Toute l'actu locale, la météo, l'horoscope, l'album de la semaine, des cadeaux à gagner et l'invité du jour avec Christophe sur IDFM Radio.
Je respire, je revois mes espoirs d'avant. Je repars jusqu'à dire je peux remonter le temps. Comme menu au début, au tout premier cri, je sais ce qui me suffit. Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été, et la vie avec toi. Du soleil, mon Eldorado, au creux de ta peau, et la vie coulera comme ça. Réapprends à être vivant. La chaleur, la douceur, je recommence autrement. Le plus haut, le plus beau, quel que soit le prix, je sais ce qui me suffit. Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été, et la vie avec toi. Du soleil, comme tout ce qu'on espère, tout ce qui nous est nécessaire. Comme toi, comme nous, tout ce qui est doux et normal, et qui peu à peu nous devient vital.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Vous êtes toujours à l'écoute de Des mots, des livres sur IDFM Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Alors, un mot sur l'actualité, si j'ose dire. Nous venons d'apprendre la disparition de la romancière britannique Barbara Taylor Bradford. Vous l'avez peut-être lu, hein, c'était une autrice de best-seller dans le monde entier, traduit évidemment, dans le monde entier. On lui doit notamment L'espace d'une vie, hein, de ses romans les plus connus. Elle était donc, comme je disais, britannique. Elle est décédée à l'âge de 91 ans et elle avait une carrière assez impressionnante. Elle a vendu plus de 91 millions d'exemplaires et notamment le dernier en date, The Wonder of It All, pas encore traduit en France, qui a été publié l'année dernière. Autant dire qu'elle écrivait jusqu'au bout. Et un de ses premiers ouvrages, c'était L'espace d'une vie, donc, et qui l'a lancé, hein, à travers le monde entier et qui a été vendu à l'époque à 30 millions d'exemplaires. Il a fait l'objet d'une adaptation télé qui a reçu des Emmy Awards, équivalent à des Oscars pour la télévision. Et on lui doit des succès planétaires comme L'être d'une étrangère, Le secret d'Emma Hart. Et depuis, donc, elle n'a cessé de poursuivre sa carrière d'écrivaine en parallèle à celle de journaliste. Elle avait même reçu la distinction d'officier de l'Empire l'Empire britannique. Autre chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de tout ce qui se passe en ce moment. Là, on arrive à un mois des fêtes de fin d'année et vous avez peut-être des envies d'offrir des cadeaux de littéraires à vos proches ou pour vous-même. Eh bien, sachez qu'il y a de nombreux salons qui se tiennent en cette fin d'année. Alors vous avez notamment pour celles et ceux qui se trouvent sur Paris, la 5e édition du salon Mi-Livre Mi-Raisin, c'est les 7 et 8 décembre à la Bellevilloise, c'est dans le 20e. Vous avez également, on en reparlera d'ailleurs lundi prochain avec une la présidente de l'association qui s'occupe de ce salon, le 12e petit salon du livre de jeunesse qui se tiendra à Cergy-Pontoise le 7 décembre. Vous avez aussi ce samedi une vente aux enchères de bandes dessinées et illustrations pour celles et ceux qui veulent également s'offrir de beaux objets ou des planches de bande dessinée ou d'illustration. Et puis le salon du livre et presse jeunesse de Montreuil qui commence dès ce mercredi. Et si vous n'avez pas le temps de tout noter, pardon, n'hésitez pas à aller sur le blog de l'émission lesmots-deslivres.over-blog.com.
Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Ça toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris ça toujours pareil. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Regardez que tu cas. Bien que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris, on peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance, non, non, alors que plus le prix, Paris sera toujours Paris.
Et nous arrivons au terme de l'émission. L'heure pour moi de vous rappeler que nous étions en tout début avec Célia Ducaju, qui est la dessinatrice d'un magnifique album de bande dessinée Interlude, dont le scénario de Céline Peters s'est paru aux éditions d'Argo. Puis nous avons retrouvé Damien Marage, qui nous a parlé d'un très beau livre dont il est le co-auteur avec Guy Lampérière. Il s'intitule « La belle histoire des merveilles de la nature », c'est pareil aux éditions de Bock Supérieur. Nous, on se quitte et je vous donne rendez-vous lundi prochain avec Martine Briand, présidente de l'association Les Bons Plans, qui nous parlera du 12e petit salon du livre de jeunesse qui se tiendra le samedi suivant, le 7 décembre, à Cergy. Excellente fin de journée sur les ondes d'IDFM Radio. Au revoir.